There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial, Popourri Show. CIUT-FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT-FM.
Vous êtes français et vous résidez ou avez résidé dans l'Union européenne? Vous souhaitez voter lors des prochaines élections européennes de juin 2024? Ces informations sont pour vous. Dans les pays de l'UE, les citoyens d'une autre nationalité européenne peuvent être inscrits sur une liste électorale locale dite « complémentaire ». En effet, le droit européen prévoit que les citoyens de l'UE doivent pouvoir voter pour les élections européennes dans leur pays de résidence. Dans ce cas, c'est le droit électoral du pays d'accueil qui s'applique. Renseignez-vous sans tarder. Les modalités de vote, les dates des élections ou l'âge pour voter peuvent être différents d'un pays à l'autre. Attention, il en va de même pour les personnes ayant résidé auparavant dans un pays de l'UE. Et ce, même si elles sont revenues vivre en France ou si elles ont déménagé hors de l'UE dernièrement. Vous êtes peut-être toujours inscrit sur les listes électorales locales. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale locale, celle-ci prime sur toute autre inscription. Ce sont alors les représentants de ce pays de l'UE que vous élirez au Parlement européen. Et vous ne pourrez pas voter pour les représentants français, que ce soit auprès de votre consulat ou de votre commune en France. Et oui, le double vote est interdit dans l'Union européenne. Prenons un exemple. Si vous êtes résident en Espagne et que vous êtes inscrit sur une liste électorale espagnole pour les élections européennes, vous voterez pour les représentants espagnols au Parlement européen. Renseignez-vous auprès des autorités du pays de l'Union européenne où vous vivez ou avez vécu pour vérifier votre statut électoral. Ils pourront également vous indiquer les démarches à suivre pour demander votre radiation de leur liste, si vous préférez voter pour un représentant français, auprès de votre consulat ou de votre commune. Vous pouvez également interroger votre consulat ou ambassade pour en savoir plus. Plusieurs sources d'informations s'offrent à vous. Tout d'abord, les sites gouvernementaux de votre pays ou ancien pays de résidence. Vous pouvez également vous tourner vers les différents sites d'information de l'Union européenne, EuroEurope ou toute l'Europe, dont vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas aussi à consulter le site du consulat de France de votre pays de résidence ou encore le site France Diplomatie. Bon vote !
Bienvenue au Festival des Jeux de Cannes. Venez jouer à des milliers de jeux de société. Découvrez les avant-premières et best-sellers. Participez aux démonstrations, tournois et conférences. Créateurs, illustrateurs, gamers, rencontrez tous les acteurs du monde du jeu. Skatepark, carousel ou encore scène centrale, danse, cirque et concert live. Réservez dès maintenant votre billet sur festivaldesjeux-cannes.com. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Le Festival International des Jeux, c'est à Cannes, au Palais des Festivals, du 23 au 25 février.
En 140 puis 280 caractères sur Twitter, Bernard Pivot alternait traits d'humeur sur l'actualité ou pensées poétiques comme « À la mort d'un vieil ami, le cœur devient le siège de notre mémoire ». Au total, plus d'un million de personnes le suivaient. Sur Inter, en 2016, il vantait les mérites de ce format court.
Je suis d'une certaine manière une sorte de moraliste, comme ça, au petit pied le matin, qui essaye de faire rire ses contemporains ou de les alerter sur des choses un peu bizarres de l'existence. Tweeter, c'est de trouver dans sa tête les mots qui diront le mieux possible en 140 signes une pensée, un sentiment, un souvenir, une idée, quelque chose comme ça. Et puis, donc c'est exercice mental, exercice de style. Pour moi, c'est merveilleux, c'est mieux que les mots croisés.
Depuis un peu plus d'un an, il avait cessé d'utiliser ce mode d'expression qui a amené un nouveau public vers Twitter pour lire ses aphorismes et qui lui a apporté une nouvelle audience, mais aussi quelques controverses, notamment pour un tweet sur la militante Greta Thunberg. Bernard Pivot ironisait beaucoup autour de sa propre mort. En 2016, il avait tweeté « L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un grand écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront. »
Émission spéciale, hommage à Bernard Pivot. Nous avons appris avec une immense émotion et une très grande tristesse le décès du journaliste et écrivain Bernard Pivot, qui a depuis plus de 50 ans transmis à plusieurs générations de téléspectateurs francophones du monde entier sa passion du livre, de la culture et de la langue française. Entre confrontations improbables, clopes et mots d'esprit, Ces émissions littéraires sur Antenne 2 étaient devenues le rendez-vous incontournable à des auteurs et du monde de l'édition. Bernard Pivot, légendaire, animateur d'Apostrophe et le bouillon de culture, n'est plus. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Potpourri Show bouscule sa programmation aujourd'hui et vous présente une édition spéciale. Parmi nos invités, écrivains, journalistes, romanciers et un invité très spécial, surprise, professeur Thomas Père. Il est collaborateur de notre émission, il enseigne le français et la littérature francophone contemporaine à la City University de New York. Il est conférencier, directeur et co-directeur de livres et auteur de nombreux articles critiques. Pionnier de l'Internet francophone, il est fondateur et éditeur principal du site Île en Île, une référence mondiale avec plus de 400 auteurs des îles francophones et de leur diaspora inscrits dans ses archives. Professeur Thomas Speer a retrouvé dans cette édition spéciale hommage à Bernard Pivot aujourd'hui sur CUT 89,5 FM, la radio du campus universitaire de Toronto. Bernard Pivot, l'homme qui faisait aimer la littérature, n'est plus. C'est la disparition d'un monde qui n'existe plus.
Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude.
Une menace existentielle du fédéral plane contre notre peuple. Le Canada nous réserve un avenir sombre, prédit M. Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon joue le tout pour le tout. Depuis les élections d'octobre 2022, le Parti québécois voit son nombre de membres augmenter de manière constante. Ce même parti demande un gel temporaire de l'immigration. Qui sont ces nouveaux apôtres du Parti québécois? À tous les francophones du Canada, êtes-vous pour ou contre un Québec indépendant? Et si le Québec devenait indépendant, seriez-vous prêt à déménager au Québec, la belle province? Les auditeurs ont la parole. Nous attendons vos réactions sur WhatsApp. Écrivez-nous immédiatement à potpourri@cut.fm. Êtes-vous pour ou contre un Québec indépendant? Potpourri Show, la voix des sans-voix sur CUT 89,5 FM, Toronto.
Suite au grand succès au Zénith, deux ans après, il est de retour en Guadeloupe. Et son groupe New Look en concert unique au Palais des Sports du Gosier le 12 mai 2024, 20h, pour fêter leurs 25 ans de carrière. Retrouvez le King du compas, Harry Larivière et son groupe New Look. Ticket en vente sur Bizouk avec Aluego, Niagara du Voyage, Corsair, France Antilles et Guadeloupe la Première.
En route pour Paris 2024 avec France Télévisions.
Oh, dja, dja, oh, dja, dja, Aya Nakamura. Allez, la campagne de financement de printemps est au rendez-vous. Des cadeaux, des laissez-passer, des billets de restaurant, des voyages et des surprises. Eh oui, du 28 mai au 2 juin, je vous invite personnellement à faire un don à CIUT 89,5 FM afin de garder la seule émission en langue française pour Potpourri Show en ondes. Depuis plus de 37 ans, nous sommes à vos côtés. On vous accompagne sur les voies de la francophonie et créole du monde. Du 28 mai au 2 juin, visitez www.cut.fm et faites un don à Potpourri Show. Ou si vous souhaitez être un partenaire à notre émission, alors pourquoi pas, écrivez-nous immédiatement à potpourri@cut.fm. Du 28 mai au 2 juin, on cadence avec Aya Nakamura.
Je suis suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie revolte dense. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie, qui vous accompagne depuis 37 ans. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader. Pour réécouter nos émissions où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrishow.com. Popourri Show, un magazine culturel sur la Radio Campus de l'Université de Toronto, en partenariat avec France Inter, la librairie francophone, RFI, France 24, TV5 Monde. Et un immense merci à nos partenaires qui ont renouvelé leur partenariat. Ciné Franco, plus de 26 ans à nos côtés. Le Créfou et ses podcasts à quoi de neuf qui ne finissent pas de vous surprendre à retrouver sur notre site. Les éditions Prises de Parole qui vous proposent Le Roi Poubelle de Hugues Laroche-Franqueur. Et Sophie Franck, au cœur des enjeux sur l'immigration francophone dans le Niagara et Wallen. Et à l'occasion de la fête des mères, Sophie France célébrera comme il se doit la beauté et la force de la maternité le dimanche 12 mai à 14h30 à la mairie de Wallen. Plus de détails sur la page Facebook de Sophie France ou popourrishow.com. Au menu ce dimanche, qu'entendez-vous par liberté de la presse? Le 3 mai dernier, des milliers de journalistes à travers le monde et nos médias partenaires ont souligné la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème cette année, la presse pour la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Violence, menace de mort, agressivité en personne et sur les réseaux sociaux, l'intimidation contre les journalistes est en hausse, que ce soit au Québec, en Ontario, aux États-Unis, en Haïti, en Russie, à l'île Maurice, en Tunisie et dans plusieurs pays africains où nos confrères RFI, TV5 Monde et France 24 ont dû fermer leurs bureaux. Liberté de la presse. Menacés de toutes parts, on en fait le point avec des témoignages à choc de journalistes haïtiens, africains, contraints de fuir leur pays pour s'exiler en France et au Canada. Rodley Saint-Aîné, nouveau collaborateur de notre émission, un nom qui résonne en Haïti et sur RFI, une voix qui captive et surtout une passion infinie pour la radio. Fondateur de l'école des médias, il a été contraint de quitter son pays pour la France en raison de menaces de mort persistantes. Il anime ces jours-ci un atelier et conférences en France tout au long du mois de mai dans le cadre du mois de la presse. Il répondra à 5 questions nous faisant part de sa situation actuelle. Quelle date fête-t-on le drapeau haïtien? Quelle est la devise du drapeau haïtien? Plusieurs DJ et notre ami artiste Richie Jay nous donnent rendez-vous le 17 mai pour la fête du drapeau haïtien à Montréal. Retrouvez l'affiche sur notre site web popourrishow.com. Et dans la deuxième heure, émission spéciale en hommage à Bernard Pivot. Bernard Pivot, passeur de savoir, est salué par beaucoup d'auditeurs du Québec, de Belgique, de Suisse, de la Réunion, de l'île Maurice, aux États-Unis. Une lumière de la culture française s'est éteinte aujourd'hui. Et oui, je vous ferai revivre quelques temps forts des hommages rendus par France Inter et TV5 Monde. Parmi nos invités, écrivains, journalistes, romanciers et un invité surprise, professeur Thomas Speer. Il est collaborateur de notre émission. Il enseigne le français et la littérature francophone contemporaine à la City University de New York. Et il est surtout connu en Haïti, à l'île Maurice, en Afrique, au Québec, pour sa grande passion pour les littératures hors hexagone, hors de France. Son dernier roman, Les Mascarades du Wisconsin, paru aux éditions Amac en septembre 2023, dont on a eu le bonheur d'en partager ici sur cette antenne. Il nous partagera ses réflexions en exclusivité avec quelques anecdotes et souvenirs qu'il garde de ses rencontres avec Bernard Pivot, à ne pas manquer avant la fin de cette émission. Mais d'abord, le monde des médias a connu des rebondissements ces derniers jours. Et oui, tout d'abord au Québec, le groupe TVA a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires de 17,9 millions de dollars. Et oui, selon le président et chef de la direction par intérim du groupe TVA, Pierre-Carl Péladeau, ces déficits sont attribuables à la baisse des revenus publicitaires de l'entreprise. Selon lui, l'année 2024 représente une année de transition, des mises à pied à prévoir. Et en France, onde de choc, le plus ancien jeu télé s'arrête. C'est une partie de mon enfance qui disparaît cette semaine. Et oui, Bernard Pivot, des chiffres et des lettres. C'est une catastrophe.
Après 52 ans à l'antenne, 52 ans.
C'est pas moi, hein, 52 ans.
L'émission des chiffres et des lettres va s'arrêter à la fin de la saison. Et d'après vous, le compte n'est pas du tout bon pour France Télé.
Écoutez-moi cet tambour là.
C'est beau, non?
Super.
Ah, vous êtes ému?
Non, mais alors quand même. Franchement, on parle d'un jeu télé, donc c'est pas grave et rien n'est irremplaçable. Mais la façon dont France Télévisions a réglé son compte à l'émission, c'est vraiment pas très classe. Je vous raconte. Premier coup de pelle, il y a un an et demi, on leur a dit « On va vous enlever de la semaine, on va vous recaser le week-end ». Au passage, les mythiques Bertrand Renard, le roi du calcul mental à moustache, et Ariel Boulimpra, la reine des dictionnaires et des tailleurs fuchsia, avaient été débarqués, c'était en 2022, après respectivement 47 ans et 36 ans de CDD. CDD, CDI refusé, viré, je vous l'ai dit, pas très classe chez France Télé. Deuxième et dernier coup de pelle, une interview hier matin du directeur des programmes, donc celui qui a décidé de les mettre le week-end, qui explique que ça ne marche pas trop ce recasage. Alors merci, au revoir. Tout ça manque d'un mot de 8 lettres, tout ça manque d'élégance. Cette fin aurait pu être un petit peu plus préparée, annoncée avec un peu plus de délicatesse. Alors c'était un formidable moment des chiffres et des lettres pour s'assoupir sur le canapé. On avait parfois envie de donner une petite canette de Red Bull à Laurent Romeshko, mais pour beaucoup aussi, c'était une petite madeleine télévisuelle. Et ça faisait aussi travailler le ciboulot. Toutes les chaînes veulent rajeunir leur public, mais le fait est que le téléspectateur moyen en France a environ 60 ans, donc faudrait pas l'oublier. Et puis vous savez quoi, je suis allé regarder hier, des chiffres et des lettres, ce sont entre 200 et 250 clubs partout en France, des tournois toute l'année. Hier, il y en avait un à Calais, il y en avait un autre dans le Puy-de-Dôme, il y a des groupes Facebook, il y a des forums de passionnés, le jeu a une vie en dehors de la télé, et ça va continuer.
Un point, c'est tout, en 15 lettres avec vous, William Galibert.
Vous avez compté?
J'espère que je ne suis pas trompé.
C'est une grande fierté de mettre notre savoir-faire au service des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans une vie.
On partage la même ambition que les athlètes, l'excellence du geste. Elle s'atteint à force d'entraînement, de persévérance, de maîtrise du geste et des techniques.
Pour les athlètes, comme pour nous artisans, c'est une occasion unique de laisser une trace, de faire briller l'excellence, celle du sport, comme celle du savoir-faire français.
Pour Paris 2024, l'enjeu principal était de rassembler les médailles en un seul écrin. Cela n'a jamais été fait auparavant. Alors quelle plus belle mission pour nous que de fabriquer une malle inédite et sur mesure qui contient, protège, transporte les rêves des plus grands athlètes de la planète.
La flamme dans nos cœurs, chanson pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
Ensemble on danse toute la nuit. Light it up, feel so free. Et sur le sol, ciel en fête. Chaque mouvement dit, let's get it. Rire et chant, main en l'air. In this beat, we lose all our cares. Oh, le monde allemand. Oh, le monde allemand.
Dans nos cœurs, feel the rhythm, moving colors. Ensemble on danse toute la nuit. Light it up, feel so free. Les pieds sur le sol, ciel en fête. Chaque mouvement dit, let's get it, let's get it. La flamme let's dans nos cœurs,
chanson pour les Jeux Olympiques, Paris 2024.
RFI double son offre en mandinquant et commence à émettre en full full day. Un concentré des programmes en français de la Radio du Monde est désormais diffusé dans ces deux grandes langues africaines. Une trentaine de journalistes et techniciens, plus de 20 correspondants sur le continent, assurent l'élaboration des programmes. Nous sommes allés à leur rencontre à Dakar au Sénégal. Suivez notre reportage dans le Journal de l'Afrique sur France 24 et France24.com.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Émission spéciale. Hommage à Bernard Pivot. Nous avons appris avec une immense émotion et une très grande tristesse le décès du journaliste et écrivain Bernard Pivot, qui a depuis plus de 50 ans transmis à plusieurs générations de téléspectateurs francophones du monde entier sa passion du livre, de la culture et de la langue française. Entre confrontations improbables à Clope et Modest Prix, ces émissions littéraires sur Antenne 2 étaient devenues le rendez-vous incontournable à des auteurs et du monde de l'édition. Bernard Pivot, légendaire, animateur d'Apostrophe et le Bouillon de Culture, n'est plus. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Popourri Show bouscule sa programmation aujourd'hui et vous présente une édition spéciale. Parmi nos invités, écrivains, journalistes, romanciers et un invité très spécial, surprise, professeur Thomas Père. Il est collaborateur de notre émission. Il enseigne le français et la littérature francophone contemporaine à la City University de New York. Il est conférencier, directeur et co-directeur de livres et auteur de nombreux articles critiques. Pionnier de l'Internet francophone, il est fondateur et éditeur principal du site Île en Île, une référence mondiale avec plus de 400 auteurs des îles francophones et de leur diaspora inscrits dans ses archives. Professeur Thomas Speer a retrouvé dans cette édition spéciale hommage à Bernard Pivot aujourd'hui sur CUT 89,5 FM, la radio du campus universitaire de Toronto. Bernard Pivot, l'homme qui faisait aimer la littérature, n'est plus. C'est la disparition d'un monde qui n'existe plus.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres est livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse à dépaillonner sa plus beau Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour des dieux. Plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça.
et des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça c'est pas comme ça.
Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes toujours plus menacés. Chaque année, le 3 mai, lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisme Reporters sans frontières publie un rapport et un classement mondial de la liberté de la presse. Dans le contexte de la triple crise planétaire, changement climatique, perte de biodiversité et pollution de l'air, les campagnes de désinformation remettent en question les connaissances et les méthodes de recherche scientifiques. La désinformation sur les questions environnementales peut entraîner un manque de soutien public et politique à l'action climatique, ainsi que l'absence de politique efficace pour protéger les communautés vulnérables touchées par le changement climatique, notamment les femmes et les filles, car ce dernier a tendance à exacerber les inégalités existantes. Les pressions politiques sur la presse augmentent dans le monde alors même que la moitié de la planète vote cette année. Alerte Reporters sans frontières dans son classement 2024 à lire absolument. La Norvège reste en tête tandis que l'Érythrée arrive en dernière position, 180e après la Corée du Nord. Le Canada se classe au 14e rang, tandis que les États-Unis sont au 55e rang. La France passe de la 24e à la 21e place. Peut-on rêver à une presse au service de la planète ? Le journalisme face à la crise. En Haïti, l'insécurité grandissante du pays menace de plus en plus les journalistes. Le danger est réel. Le 30 juin 2021, deux reporters, Antoinette Duclerc et Diego Charles, ont été assassinés en plein cœur de la capitale. J'aimerais vous proposer maintenant à me suivre dans les coulisses de nos médias partenaires, en France, en Tunisie, en Afrique, au Canada, en Haïti, où la vie des journalistes est en danger. On débute justement avec notre nouveau collaborateur haïtien qui est en exil en France. Il est fondateur de l'École des médias, Rodly Saint-Iné, journaliste culturel, producteur, présentateur radio-télé, correspondant du magazine Couleur Tropicale RFI. À la suite de ses prises de position à la télévision contre l'injustice sociale et les problèmes de sécurité qui gangrènent Haïti, il reçoit des menaces de mort. C'était en octobre 2020. Il dépose plainte à la direction centrale de la police judiciaire, sans résultat. L'assassinat d'un inspecteur de police a été l'élément déclencheur de sa fuite. Dans un article, il dit, et je cite, « Des bandits lourdement armés sont venus me chercher pour m'exécuter. Heureusement, je me suis échappé. J'aurais pu y laisser ma peau. » Il a fait appel aux instances internationales, aux organismes de défense des droits humains, aux organismes de journalisme. Rodly Saint-Iné, nouveau collaborateur de Popourri Show, CUTFM, journaliste haïtien en exil en France, à qui nous souhaitons courage et bonne chance dans sa vie et ses entreprises. Il nous livre en 5 points sa situation actuelle.
Bonjour, je suis Rodly Saint-Iné, je suis journaliste haïtien, réfugié ici en France et résident à la MDJ. Actuellement, le pays connaît le chaos total, avec une forte montée des violences des gangs. En moins de 2 mois, 1193 morts. Et le 29 février, le pays s'est enlisé vraiment dans une violence extrême où des bandits ont pris le contrôle de plusieurs commissariats, ils ont incendié. Et malheureusement, on est dans une situation où le pays est contrôlé par des gangs. L'État est quasiment inexistant, et ceci depuis un bon moment en fait. Depuis 2021, le président a été assassiné. Actuellement, il n'y a pas d'élu. Il n'y a que le Premier ministre qui a été nommé quelques jours avant l'assassinat du président et qui, via un accord politique, reste au pouvoir. Et il a promis d'organiser des élections, mais on sent aussi qu'il a tout intérêt à maintenir cette violence pour rester au pouvoir, pour ne pas organiser des élections, pour rester au pouvoir, continuer à piller en douce et tout. Réellement, ils n'ont pas la capacité de pouvoir solutionner ce problème. D'ailleurs, ils n'en ont pas la volonté ni l'intérêt. Il y a bon nombre de politiques et une bonne partie de la classe économique haïtienne qui sont en lien avec des bandits et tout. Donc, l'État haïtien maintenant est en lambeaux, je peux dire. L'ONU fait état d'environ 300 puissants groupes de gangs. Un gang en Haïti, c'est un regroupement d'hommes armés, mais lourdement armés, en fait, et qui rackettent, qui kidnappent, parce qu'il y a tout ça aussi pour comprendre la situation de violence aussi, donc qui terrorisent la population, et derrière, il y a la guerre de territoire aussi. Un pays qui vit avec un taux d'inflation, c'était le chiffre de l'année dernière, de 49,3%. Donc on voit qu'on est dans une extrême précarité. Haïti, c'est une sorte de plaque tournante aussi pour le trafic de drogue dans la région, en fait, et trafic d'armes aussi. Et il faut comprendre, selon le dernier rapport de l'ONU, le pays compte environ 600 000 armes, dont la plupart sont des armes de guerre. À 98%, ils proviennent tous des États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis, entre autres, ou les pays, plus généralement les pays dits amis d'Haïti, n'ont pas une réelle volonté de maintenir Haïti dans une telle situation? C'est une population vraiment qui essaye de survivre, malgré tout, mais qui vivent l'enfer au quotidien. Parce que moi-même, personnellement, depuis mon départ, ma famille a dû changer de quartier à 4 reprises, parce que je suis journaliste, entre autres, mais parce que aussi l'insécurité généralisée aussi, et la violence des gangs pousse la population à fuir. Et malheureusement, quand ils fuient, en fait, ils n'ont pas vraiment d'endroit sécuritaire où aller. C'est un peuple, voilà, qui est dans son propre pays, mais qui est obligé à fuir son propre pays, mais à l'intérieur. Et parce que pour la plupart, ils ne peuvent pas avoir un visa et pouvoir quitter le pays. Et c'est peut-être malheureusement et la seule alternative que maintenant un Haïtien pense, c'est pouvoir vraiment quitter le pays, parce que le pays devient un enfer. Il y a plusieurs propositions. Ça fait déjà un an depuis qu'on parle de l'arrivée d'une mission, d'une force multinationale pour aider Haïti. 95% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est contrôlée par des groupes armés. Et ce sont des quartiers difficiles d'accès, parce qu'il y a de la population civile qui sont obligés de rester là-bas aussi, parce que les bandits utilisent la population civile aussi comme bouclier humain. Donc ce serait très difficile. Je pense que on devrait donner les moyens à la police nationale. Parce que je crois vivement que les policiers haïtiens pourraient mieux être efficaces que d'autres policiers étrangers pour apporter une solution, ne serait-ce que militaire. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une solution socio-économique aussi pour réduire cette précarité qui est aussi le corollaire du banditisme et tout. Et on a beaucoup de travail à faire, mais je pense que la solution ne peut être qu'une solution haïtienne. J'ai le sentiment que je serais beaucoup plus utile en Haïti qu'ailleurs, parce que Haïti a besoin de tout. Haïti a besoin des journalistes, Haïti a besoin vraiment des gens qui puissent vraiment faire bouger les lignes. Et il est vrai que le contexte actuel m'empêche de pouvoir revenir tout de suite, parce que je souhaite vraiment participer au renouveau d'Haïti. Donc je souhaite et pouvoir y retourner un jour. Un message aux Haïtiens pour terminer, à tous mes frères haïtiens. C'était ensemble, c'est main en main qu'a sauvé Haïti. C'est une prise de conscience haïtienne. qui peut vraiment nous sortir de ce marasme.
La zone de la boule 12 qui surplombe Port-au-Prince, voici les rares images de policiers en patrouille à la recherche des criminels. C'est ici même que les deux journalistes Wilgens Wissin et Amadi John Wesley ont été retrouvés morts après une fusillade. Un troisième journaliste a pu miraculeusement s'enfuir grâce à l'aide des riverains. Un acte criminel et barbare, dénonce Radio Écoute FM, le média en ligne pour qui travaillait l'une des victimes. Des journalistes qui préparaient un reportage sur le climat sécuritaire avant d'être assassinés par un gang qui sévit dans ce secteur, devenu le théâtre d'affrontements entre bandes armées déterminées à en prendre le contrôle. Car la zone de la boule 12 est désormais l'unique voie terrestre pour rejoindre la moitié sud du pays, la route nationale étant aujourd'hui totalement contrôlée par l'un des plus puissants gangs d'Haïti. Un pays plongé dans un chaos sécuritaire, aggravé par l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier. En 2021, Haïti a connu au moins 950 enlèvements. Les enquêtes judiciaires n'aboutissent que très rarement.
This is just one more example that is we may expect the impunity with which they are murdered for just trying to tell the truth.
Même la police haïtienne peine à faire face. Elle n'a pas organisé d'opération d'ampleur contre ces gangs depuis mars 2021.
Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes toujours plus menacés.
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a rappelé la menace qui pèse sur les médias aux quatre coins du monde. Proclamé pour la première fois en 1993, ce jour a permis au chef de l'ONU de rappeler les valeurs du journalisme en saluant le courage de ceux qui osent poser des questions. Les Nations Unies reconnaissent le travail inestimable des journalistes et des professionnels des médias qui veillent à ce que le public soit informé et engagé. Sans faits, nous ne pouvons pas lutter contre la désinformation. Sans responsabilité, nous ne pourrons pas mettre en place des politiques solides. Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté. Une presse libre n'est pas un choix, mais une nécessité. 71 journalistes et professionnels des médias ont perdu la vie en 2023, qui a été, selon Antonio Guterres, une année dévastatrice pour la profession. La liberté des médias est assiégée. Et le journalisme environnemental est une profession de plus en plus dangereuse. Des dizaines de journalistes couvrant l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, le braconnage et d'autres problèmes environnementaux ont été tués au cours des dernières décennies. Dans la grande majorité des cas, personne n'a eu à répondre de ces actes. L'UNESCO indique qu'au cours des 15 dernières années, quelques 750 attaques ont été perpétrées contre des journalistes et des organes d'information traitant de questions environnementales. Et la fréquence de ces attaques est en augmentation. Antonio Guterres a exhorté toutes les nations à cesser de s'en prendre à la vérité et à ceux qui la rapportent. Il a déploré que seuls 13% des cas de meurtre aient fait l'objet d'une enquête condamnant l'impunité qui règne toujours.
Il est midi à Tunis et dans les studios de Radio Mosaïque FM, Ilyes Garbi présente son émission Le Populaire Midi Show. À ses côtés, AFM Meki, son chroniqueur vedette. Voilà un an, les deux hommes se sont retrouvés convoqués par la police. Une mesure d'intimidation avant éventuellement des poursuites plus graves. La police s'appuie sur un nouveau décret, le décret 54, promulgué en 2022.
Le décret loi 54 restreint considérablement la liberté d'expression et peut même la faire disparaître. Lorsque vous émettez un décret stipulant que la diffusion de fausses nouvelles est punie de 5 ans d'emprisonnement, pouvez-vous prendre ce risque ? Même si vous commettez une erreur involontaire et que vous publiez une fausse nouvelle, vous êtes passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Le syndicat national des journalistes tunisiens affirme qu'en un an et demi, plus de 60 journalistes, avocats ou opposants, ont fait l'objet de poursuites au nom du décret 54. Une évolution inquiétante, loin du vent de liberté né après la révolution de 2011. Les atteintes à la liberté de la presse touchent toutes les sous-régions du continent. Au Burundi, plusieurs journalistes sont emprisonnés, d'autres en exil. Ce vendredi, certains se sont réunis à la maison de la presse de Bujumbura pour échanger sur leur situation.
Nous plaidons pour la dépénalisation des délits de presse,
Pour le travail des journalistes, afin d'éviter toute intimidation ou harcèlement judiciaire. Nous demandons un accès à l'information, notamment l'information que nous recherchons auprès des pouvoirs publics.
Mais le gouvernement burundais fait remarquer qu'occupant cette année la 108e place, le pays a progressé dans le classement de Reporters sans frontières. La vague de coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest n'a pas aidé au développement de la presse libre. Exemple en Guinée, où le syndicat de la presse privée professionnelle a organisé un point presse. Il dénonce des violences ou des brouillages ou encore des interdictions de diffusion. Son secrétaire général a passé 40 jours en prison pour avoir appelé à manifester contre la restriction d'Internet et des médias. Les journalistes guinéens n'ont pourtant rien perdu de leur combativité. Ils ont même trouvé un slogan valable pour le monde entier. La liberté de la presse est non négociable.
T'as vu, il y a des journalistes qui sont encore fait arrêter dans ce pays.
Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Bah, leur métier, semble-t-il. Enfin, ils ont eu la malchance d'écrire des articles qui n'ont pas vraiment plu au gouvernement.
Oh bah, tu sais, ce genre de truc, ça arrive tout le temps. Tiens, regarde.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question.
Pourquoi la liberté de la presse n'existe pas dans certains pays? Dans les pays démocratiques, les journalistes sont libres d'enquêter et de publier les informations qu'ils souhaitent. Ils ont aussi le droit de ne pas révéler quelles sont leurs sources. Enfin, ils peuvent critiquer le gouvernement sans craindre de représailles. La seule limite, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un sans preuve. C'est de la diffamation ou appeler à la haine contre une catégorie de la population. Si quelqu'un n'est pas content de ce qu'un média dit de lui, il peut l'attaquer en justice. Le juge dira si le média a tort ou non. Mais la liberté de la presse n'existe pas dans tous les pays. Dans des États autoritaires comme la Corée du Nord ou la Chine, le gouvernement pratique la censure. Les journaux ne publient que ce qui est autorisé. Un journaliste qui enfreint cette règle peut finir en prison. Ou pire, dans certains pays, des journalistes sont assassinés parce qu'ils dérangent des personnes proches du pouvoir. Les gouvernements qui limitent la liberté de la presse le justifient en disant que la sécurité de l'État en dépend. En fait, ils craignent surtout que les gens se révoltent contre eux. Les dictatures limitent ou interdisent aussi l'accès à Internet, car on y trouve des articles de médias étrangers. Et un peuple informé par une presse libre et indépendante est beaucoup plus difficile à soumettre. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.
Ce que représente pour moi la liberté de presse, c'est l'expression démocratique. La liberté d'expression, c'est évident que c'est la base de tout le système de radiodiffusion. Si on a un régime de radiodiffusion trop coercitif, il n'y a pas d'expression. Donc, la liberté est essentielle.
La liberté de presse est plus fragile que jamais. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, on a vu comment la presse est attaquée. On voit comment ça a des répercussions chez nous aussi. Jamais je n'ai constaté autant de suspicion à l'endroit des journalistes, qui pourtant s'appliquent de plus en plus à des codes d'éthique dans les entreprises. On a tous ça maintenant. Alors, pour moi, la liberté de presse doit être défendue toujours. Liberté ne veut pas nécessairement dire non plus tout passer ou tout dire. La liberté, c'est toujours une limite. C'est dans le respect que toutes ces choses doivent être faites et dites. Mais c'est essentiel. Et j'espère qu'il y aura toujours des médias pour la diffuser.
Le rapport de Reporters sans frontières qui met en exergue la mainmise du politique sur les médias et les reculs manifestes dans le monde de la liberté de la presse. 50% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est sous cloche. Dans ce journal, nous faisons le point sur la liberté de la presse en Afrique spécifiquement. Et on retrouve depuis Dakar Sadibou Marong, il est directeur de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Merci à vous. Pour vous, dites-nous justement, quel est l'état global du continent africain par rapport au reste du monde en termes de liberté de la presse?
Merci beaucoup. D'une manière générale, un peu les tendances générales observées dans les pays d'Afrique subsaharienne, un peu dans le cadre de ce classement pour la liberté de la presse dans le monde, montrent effectivement un peu un certain nombre de pays qui ont pour l'essentiel chuté dans le classement. Nous avons connu 27 pays de la sous-région africaine au sud du Sahara qui ont chuté dans le cadre du classement. Donc il y a le cas de la Mauritanie qui ont haussé, disons, excusez-moi, dont le score, dont le rang a augmenté dans ce classement. Il y a le cas de la Mauritanie effectivement qui est intéressant, mais également au-delà de cela aussi, il y a le cas peu d'un pays comme la Tanzanie qui est pratiquement parti de loin et qui pour l'essentiel était un peu ces dernières années également, un peu avant l'arrivée de la présidente, en tout cas dans une sorte de situation très difficile où l'environnement de la liberté de la presse était extraordinairement corsé avec des décisions très, très liberticides. Mais on a vu avec l'arrivée de la nouvelle présidente que les choses, l'étau a commencé à se desserrer autour du journalisme et de la pratique du journalisme d'une manière générale.
Alors, parlons justement, si vous voulez bien, plus spécifiquement, par exemple, du cas du Sahel. On sait que plusieurs pays ont subi des coups d'État, mais ne sont pas forcément, d'ailleurs, les moins bien classés, parce qu'on a comparé pays par pays. On sait, par exemple, que dans certains pays, il y a eu des suspensions de médias. Je pense évidemment à notre groupe, France 24 et RFI. Expliquez-nous, justement, comment est fait ce classement ?
En fait, le classement est une sorte de, disons, de compilation un peu d'une série de ce qu'on appelle un peu de manière quantitative les exactions qui ont eu lieu du 1er janvier au 31 décembre. Mais également, c'est a été complété un peu par des analyses un peu d'un certain nombre de personnes, personnalités de divers horizons, notamment des journalistes, des juristes, des experts. Et dans un pays, cela donne un score, mais cela donne également un rang. Maintenant, pour ce qui est du Sahel, ce qui est le plus important, c'est que traditionnellement, avant ce qu'il s'est passé ces dernières années, notamment avec l'émergence des jeunes, le Niger, par exemple, a été un pays quand même où la liberté de la presse avait véritablement droit de cité. C'est également le cas du Burkina Faso pendant très longtemps. Donc, c'est pourquoi le rang, les dernières années d'avant, l'émergence des jeunes était des rangs assez intéressants. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, et avec l'émergence des jeunes, les jeunes n'acceptent aucune voix dissonante, aucune voix discordante. Et dans le cadre un peu de la liberté de la presse, donc la liberté de la presse est prise finalement entre l'étau, aussi bien un peu des forces armées, des groupes armés terroristes, mais également un peu des pressions politiques, entre guillemets, qui viendraient des jeunes. Et cela s'explique par des suspensions de médias internationaux, mais également des expulsions de correspondants de la presse internationale. Mais au-delà de cela, également, à l'intérieur même, la pratique du journalisme et l'exercice du journalisme dans les pays du Sahel également pose problème et de plus en plus, parce que les journalistes actuellement sont soit forcés à intégrer, si vous êtes critique sur un plateau de télévision, vous êtes forcé à intégrer l'armée, par exemple. On a vu ça, on a vu le cas d'Issaka Lingani au
Burkina. Oui, Saïdou Marong, parlons rapidement d'un mot peut-être sur un pays emblématique, lanterne rouge du classement, l'Érythrée, 180e mondial, devenu au fil des années un désert de l'information. Expliquez-nous rapidement ce que vous entendez par là.
C'est un véritable désert de l'information parce que l'Érythrée actuellement, il y a presque plus de journalisme existant, en tout cas de journalisme au-delà de ce que les autorités elles-mêmes souhaiteraient que le journalisme soit là-bas, c'est-à-dire qu'un journalisme à voix unique. Maintenant, il y a le départ de, on a constaté par exemple dans nos analyses, que le départ de plus en plus de beaucoup de journalistes qui ne peuvent pas accepter cet état de fait, donc qui sont partis dans les pays environnants et d'autres qui sont partis à l'étranger également. Et de plus en plus également, c'est le pays où actuellement il y a les quatre journalistes les détenus depuis 25 ans sont actuellement en Érythrée. Et nous travaillons actuellement sur le cas de David Isaac, qui est actuellement le journaliste le plus détenu pendant 25 ans.
Le plus ancien détenu dans ce pays,
et ça fait 25 ans ou 24 ans.
Merci beaucoup, Saïdou Marong, directeur de Reporters sans frontières, RSF justement en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse à dépaillonner sa plus beau Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour des dieux.
Plus fort est toujours la meilleure. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça.
Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer.
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça.
Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillette balaya le président. C'est un regrettable accident. Le même rituel s'implant. Autant en emporte le vent. Le sang appelle le sang.
Du groupe France Média Monde, diffusé en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude.
Une menace existentielle du fédéral plane contre notre peuple. Le Canada nous réserve un avenir sombre, prédit M. Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon joue le tout pour le tout. Depuis les élections d'octobre 2022, le Parti québécois voit son nombre de membres augmenter de manière constante. Ce même parti demande un gel temporaire de l'immigration. Qui sont ces nouveaux apôtres du Parti québécois? À tous les francophones du Canada, êtes-vous pour ou contre un Québec indépendant? Et si le Québec devenait indépendant, seriez-vous prêt à déménager au Québec, la belle province? Les auditeurs ont la parole. Nous attendons vos réactions sur WhatsApp. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous pour ou contre un Québec indépendant? Popourri Show, la voix des sans-voix sur CUT 89,5 FM, Toronto. Et maintenant, place à notre chronique sur la langue française dans le cadre du collectif Les Linguistes Atterrés. Laëlia Véron, linguiste et enseignante, chercheuse française, chroniqueuse sur France Inter, analyse les raisons pour lesquelles la langue est une construction sociale et culturelle qui ne cesse de se renouveler. Cette chronique est présentée par France Inter en partenariat avec l'Association des Françaises du Monde Toronto, à retrouver sur notre site web popourrichaud.com.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Duisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'état dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Suite au grand succès au Zénith. Deux ans après, il est de retour en Guadeloupe. Harry Larivière et son groupe New Look en concert unique au Palais des Sports du Gosier le 12 mai 2024, 20h, pour fêter leurs 25 ans de carrière. Retrouvez le King du compas, Harry Larivière et son groupe New Look. Ticket en vente sur Bizou avec Aluego, Nayara du Voyage, Corsair, France Antilles et Guadeloupe la Première.
Tout se jouera en un seul tour. Ce sera le dimanche 26 mai. Il s'agit d'un suffrage universel direct. Nous votons alors pour une liste de candidats, souvent associés à un parti politique. Et nous avons l'embarras du choix cette année. 34 listes sont proposées. Les sièges seront répartis uniquement entre les listes ayant récolté plus de 5% des suffrages et le nombre de sièges pour chaque liste sera proportionnel à son nombre de voix. Par exemple, si une liste recueille 23% des suffrages, elle obtiendra 22 sièges au sein de l'hémicycle. Ils seront d'ailleurs attribués dans l'ordre de présentation des candidats. Cette année, nous allons élire 79 eurodéputés français, mais 5 d'entre eux ne vont pas tout de suite entrer en fonction. Ils vont devoir attendre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour remplacer en partie leurs homologues britanniques dans l'hémicycle. Après le Brexit, nous passerons alors d'un total de 751 députés européens à 705. Ces nouveaux élus siégeront pour 5 ans au Parlement européen, entre Strasbourg et Bruxelles. C'est là qu'ils voteront les directives et adopteront le budget de l'Union européenne.
Et un immense merci à nos partenaires qui ont renouvelé leur partenariat. Mille merci. Ciné Franco, plus de 26 ans à nos côtés. Le Créfou et ses podcasts, quoi de neuf, qui ne finissent pas de nous surprendre. Sophie Franc, au cœur des enjeux sur l'immigration francophone dans la région de Niagara et Wallen. Et les éditions Prises de Parole, qui vous proposent aujourd'hui Le Roi Poubelle, de Hugues La Roche-Franqueur, originaire de la ville du Québec, un artisan du théâtre musical et jeunesse, très connu au sein de la francophonie canadienne. Le Roi Poubelle, de Hugues La Roche-Franqueur, et l'histoire d'Élise, une documentariste fait naufrage au milieu du Pacifique Nord sur une île étrange entièrement constituée de déchets. Et oui, seule survivante, elle cherche de l'aide et tombe sur le Roi Poubelle, unique habitant et souverain autoproclamé des lieux. Avec un ton à la fois comique et sincère, la pièce explore la solitude, le deuil, l'espoir et le sentiment de devoir affronter seul les conséquences des actions de plusieurs. Elle invite aussi les jeunes à repenser leur relation avec la consommation. Le Roi Poubelle, des éditions Prises de Parole, une pièce destinée aux jeunes de 10 à 14 ans. Le Roi Poubelle, de Hugues La Roche-Franqueur, à retrouver sur prisedeparole.ca. Oh, Dja, Aya Nakamura. Allez, la campagne de financement de printemps est au rendez-vous. Des cadeaux, des laissez-passer, des billets de restaurant, des voyages et des surprises. Eh oui, du 28 mai au 2 juin, je vous invite personnellement à faire un don à CIUT 89,5 FM afin de garder la seule émission en langue française pour pourri chaud en onde. Depuis plus de 37 ans, nous sommes à vos côtés. On vous accompagne sur les voies de la francophonie et créole du monde. Du 28 mai au 2 juin, visitez www.cut.fm et faites un don à Popourri Show. Ou si vous souhaitez être un partenaire à notre émission, alors pourquoi pas, écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Du 28 mai au 2 juin, on cadence avec Aya Nakamura.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Émission spéciale. Hommage à Bernard Pivot. Nous avons appris avec une immense émotion et une très grande tristesse le décès du journaliste et écrivain Bernard Pivot. qui a depuis plus de 50 ans transmis à plusieurs générations de téléspectateurs francophones du monde entier sa passion du livre, de la culture et de la langue française. Entre confrontation improbable à Clope et Mauduesprit, ses émissions littéraires sur Antenne 2 étaient devenues le rendez-vous incontournable des auteurs et du monde de l'édition. Bernard Pivot, légendaire animateur d'Apostrophe et Le Bouillon de Culture, n'est plus. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Potpourri Chaud bouscule sa programmation aujourd'hui et vous présente une édition spéciale. Parmi nos invités, écrivains, journalistes, romanciers et un invité très spécial, surprise, professeur Thomas Père. Il est collaborateur de notre émission, il enseigne le français et la littérature francophone contemporaine à la City University de New York. Il est conférencier, directeur et co-directeur de livres et auteur de nombreux articles critiques. Pionnier de l'Internet francophone, il est fondateur et éditeur principal du site Île en Île, une référence mondiale avec plus de 400 auteurs des îles francophones et de leur diaspora inscrits dans ses archives. Professeur Thomas Speer a retrouvé dans cette édition spéciale hommage à Bernard Pivot aujourd'hui sur CUT 89,5 FM, la radio du campus universitaire de Toronto. Avant de poursuivre avec l'édition spéciale en hommage à ce grand amoureux de la défense de la langue française, Bernard Pivot, j'aimerais remercier particulièrement tous les auditeurs qui nous ont écrit suite à l'émission de dimanche dernier. Bonjour spécial à Matt, un nouvel auditeur anglophone ou francophile, je sais pas, qui aime bien Aya Nakamura, d'ailleurs qui était à New York cette semaine. Et je vous réserve quelques surprises, cher Matt, à la fin de l'émission. Eh oui, soyez des nôtres. Salutations chaleureuses à tous les professeurs et étudiants qui ont aimé notre page Facebook et la page X. Eh oui, cette semaine, merci beaucoup. Bien le bonjour à Diane, Mademoiselle Rapougeau, Jean Juvenot, Janine Maillard, fondatrice de FKZO Festival à Compazouk, Ontario, qui nous réserve de belles surprises avec son festival annuel Compazouk cet été à ne pas rater. On en parle bientôt. Et merci à tous les nouveaux membres et nos partenaires qui ont renouvelé leur abonnement. Oui, Potpourri Chaud vous remercie du fond du cœur. Nous sommes plus de 700 000 franco-ontariennes, franco-ontariens. Alors, il faut se parler, il faut s'entraider, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous partager une nouvelle assez urgente et importante de Radio France Internationale. Et oui, RFI est dans le collimateur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo, l'instance de régulation des médias qui a récemment protesté contre le traitement médiatique inéquitable de l'actualité sociopolitique du pays, vient de mettre en demeure le média français. Et le Togo n'est pas le seul pays à cibler RFI et France 24. Plusieurs autres pays africains pro-russes ne cessent de menacer les journalistes de RFI, France 24 et aussi CNN. Et oui, comme vous voyez, tout n'est pas gagné en matière de la liberté de la presse dans ce monde. Voilà une autre bonne raison de nous aider financièrement, madame, monsieur, car CUTFM est une radio indépendante et libre. Elle est financée à 100% par des auditeurs et des étudiants de l'Université de Toronto. Pour un montant de 25$ et plus, vous recevrez un reçu pour des fins d'impôt. Allez visiter www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate et faites un don en toute sécurité à Potpourri Chaud. Merci mille fois.
Pendant plus de 15 ans, il a régné sur les vendredis soirs des Français. Mais avant cela, il a été ce petit garçon qui dévorait avec passion le dictionnaire, l'un des seuls livres que l'on trouvait chez ses parents, épicier à Lyon. Son diplôme du Centre de formation des journalistes en poche, il se lance. Entretien d'embauche désastreux au Figaro littéraire, sauvé in extremis par une question du rédacteur en chef sur le Beaujolais. En 1974, Bernard Pivot claque la porte du Figaro, place à la télévision. Il y animera 4 émissions, ouvrez les guillemets, double jeu, bouillon de culture et la plus célèbre, Apostrophe, 724 numéros sur 15 ans et un générique devenu culte.
L'apostrophe allait démarrer en janvier 1975 et je cherchais une musique pour le générique de l'émission. Cette émission dont je ne savais pas évidemment qu'elle allait durer 15 ans et demi. Je n'avais jamais entendu le concerto numéro 1 de Rachmaninoff, donc je mets le disque. À un certain moment, j'entends le piano, j'entends une phrase musicale et je me dis, c'est ça, Apostrophe. Ça doit être ça, Apostrophe. C'est-à-dire une conversation comme ça, vigoureuse, ardente, joyeuse,
parfois profonde.
Bernard Pivot accueille dans son studio tout ce que la planète compte de grands écrivains. Yourcenar, Duras, Kundera, Solzhenitsyn, Modiano. Il est l'homme qui donne le goût de lire au grand public. On a peine à l'imaginer aujourd'hui. Selon un sondage IFOP de 1983, un tiers des achats de livres sont influencés par Apostrophe. C'est sans doute à cette immense popularité qu'il doit son entrée au jury Goncourt, dont il devient le président en 2014, 10 ans après y être entré. Le seul membre du jury à ne pas être écrivain, plaisantait-il. Il a tout de même écrit une 20aine de livres, dont un dictionnaire amoureux du vin, un livre de souvenirs, la mémoire n'en fait qu'à sa tête, et le tout dernier, sur l'amitié, amis, chers amis. Son départ du jury Goncourt, le 3 décembre 2019, est un événement. Il s'en est expliqué dans C'est à vous sur France 5.
Tous nos étés à l'Académie Goncourt, nous les passons à lire les livres qui vont sortir à la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'on lit en juin, juillet, août, entre 50 et 60 romans. Donc c'est au détriment du soleil, au détriment de la Méditerranée, au détriment de la famille, au détriment des copains. Et là, je me suis dit, combien me reste-t-il d'étés, de beaux étés devant moi ? Très très peu. Et j'ai décidé de quitter l'Académie Goncourt pour retrouver des beaux étés.
Impossible de parler de Bernard Pivot sans évoquer aussi son amour du vin, de la gastronomie, du football et cette façon unique qu'il avait de poser des questions en ayant l'élégance d'oublier qu'il connaissait peut-être les réponses.
Et oui, là nous entendons le générique de l'émission Bouillon de Culture animée par Bernard Pivot pendant plus de 15 ans. Et oui, Bernard Pivot, ancien producteur et animateur d'Apostrophe et de Bouillon de Culture, est décédé à Neuilly-sur-Seine lundi 6 mai à l'âge de 89 ans. Et nous lui rendons hommage aujourd'hui. Son décès suscite de nombreuses réactions à travers le monde francophone. Et oui, Bernard Pivot, ce passeur de mots qui a su passionner les Français et les francophones du monde entier pour les livres qu'il présentait à la télévision, qui a bouleversé durablement la vie littéraire, un phénomène sociologique et un objet culturel unique en son genre, a refermé lundi 6 mai le livre d'une vie riche, passé à interroger les écrivains de légende. La disparition de cette grande figure culturelle est une perte pour le monde du livre et pour tous les francophones, les francophiles. Et oui, avec lui, le livre s'invitait chez nous. Plusieurs de nos médias partenaires lui ont rendu hommage tout au long de la semaine et j'ai décidé d'en choisir une émission que je trouve assez pertinente. 1990, dans l'émission Apostrophe, l'écrivain Gabriel Matzneff face à Denise Bombardier, vous vous souvenez ? La regrettée Denise Bombardier n'a pas hésité de traiter l'écrivain Matzneff de pitoyable avec ses relations inappropriées envers des adolescentes. Et d'ailleurs, certains ont même reproché à Bernard Pivot d'avoir pas été plus rigoureux envers ce monsieur Matzneff. Et oui, cet incident a eu un effet néfaste sur Bernard Pivot et il l'a regretté par la suite. Les hommages et réactions après la mort de Bernard Pivot sont nombreux. Il était un génie qui rendait la littérature fraternelle. Avant de recevoir le témoignage du professeur, blogueur, troubadour, écrivain, grand amoureux des littératures plurielles des îles, Thomas Pears, qui a déjà rencontré Bernard Pivot, je vous invite, madame, monsieur, à écouter une de mes émissions coup de cœur de la semaine en hommage à Bernard Pivot. C'était sur France Inter, dans le 18-20. Le téléphone sonne, animé par Fabienne Sainte. Eh oui, l'émission pionnière de l'interactivité dont le succès ne se dément pas depuis près de 40 ans. Et juste après, le témoignage du professeur Thomas Pears de New York. Popourri Show, 37 ans de découverte francophone créole sur CUT 89,5 FM, Toronto, la radio au bout des doigts.
France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'était le vendredi soir. Le concerto numéro 1 de Rachmaninov nous envoyait dans nos chambres. Les parents étaient devant Apostrophe et rien ne pouvait les déranger. Les miens n'étaient pas de très grands lecteurs. Mais ma mère adorait écouter parler Gendarme Maison, recordman des invités de Bernard Pivot. Dans les images d'archives qui se mélangent aux souvenirs d'enfance, il y a des fauteuils très larges, il y a des clopes qui fument au doigt d'un invité sur deux et Pivot qui joue avec ses lunettes de la main droite, le livre ouvert dans la main gauche. On a tous fini par regarder aussi Apostrophe et puis bien sûr Bouillon de Culture. lecture. La génération Pivot, c'est celle qui allait en librairie dès le samedi demander le livre que j'ai vu hier chez Pivot quand on avait oublié le titre de l'auteur ou l'auteur. Parfois, il y avait même des tables apostrophes dans certaines librairies. Et au plus fort de l'émission, 6 millions de téléspectateurs devant leur télévision. Il était prescripteur, c'est peu dire. La moindre réserve de ma part mettait fin à la vie d'un livre, dira-t-il après. Un peu désolé quand même. Il aimait les livres, Bernard Pivot, il aimait les auteurs. Il a rencontré Solzhenitsyn après l'archipel du Goulag. Il a proposé du thé à Nabokov. Il a vu tituber Bukowski. Il a arbitré l'engueulade entre Guy Béard et Serge Gainsbourg. Il a écouté Duras parler de l'amant. Après Apostrophe et Bouillon de Culture, il y a eu le prix Goncourt, bien sûr, la dictée, et puis toujours la gastronomie, le football, et ce fameux questionnaire de Proust à la fin des émissions à invité unique, votre héros dans la fiction, votre mot favori et comment voudriez-vous mourir. Nous rendons hommage à Bernard Pivot ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Nathalie, vous êtes à Montpellier, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne. Bah, écoutez, vous avez tout dit de ce que je voulais dire.
Ah bah raccrochez alors Nathalie, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise? Non, mais j'ai appelé tout de suite quand j'ai entendu le sujet, parce que moi, ben, mes parents non plus n'étaient pas de grands lecteurs, mais j'étais devant tous les soirs. J'étais déjà une grande lectrice, mais il m'a fait découvrir énormément de choses. C'était pas juste quelqu'un qui aimait les livres, mais il les rendait vivants. Moi, je me rappelle de débats chez lui, incroyables. Je me rappelle de Denise Bombardier, ça, bien je sûr. M'en rappelle très très bien face à Madnef. Je me rappelle aussi qu'il avait dit, en levant le livre de William Boyd, de Comme neige au soleil, celui-là, je vous le dis, si vous n'êtes pas content, je m'engage, je vous le rembourse, vous m'appelez. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire et je l'avais découvert du coup. Et j'ai lu tous les livres de William Boyd derrière. Et ça, je trouvais ça merveilleux, cette capacité incroyable à faire vivre ces livres-là et à donner envie, à faire parler Modiano. Moi, j'ai découvert Modiano.
Ah, on a le même souvenir.
Mais bien sûr, ouais. C'était tellement incroyable. Mm-hmm. On le plaignait tellement,
absolument.
Modiano.
Oh,
et c'était quand même... Enfin, voilà. Moi, Pivot, c'est celui qui m'a certainement fait découvrir le plus grand nombre d'auteurs possibles. Et j'en serai éternellement reconnaissante. Et voilà, aujourd'hui, je voulais le dire parce que c'était important pour moi.
Eh ben, c'est formidable, Nathalie. On est absolument ravis de vous avoir eu. C'est marrant parce que vous avez raison. Vous parliez de... Vous disiez tout à l'heure en plaisantant, vous avez tout dit. J'ai le même souvenir de Modiano qui a un mal considérable à parler, le pauvre. Et Pivot qui l'aide comme c'est il ça. Le peut et comme il l'a fait avec tant d'autres.
C'est ça, exactement. Et voilà, et tout ça, c'était Pivot. Et alors, j'ai pas tout aimé, bien sûr. J'ai des livres que j'ai eu qu'il a... Mais ça fait rien, c'était pas grave. Il en parlait, on en parlait, et ça, c'était formidable.
Merci voilà. beaucoup, Nathalie. Vraiment, merci beaucoup pour cette jolie introduction, pour discuter ensemble. Il y aura beaucoup de gens qui passeront au téléphone sonne. Mais avec nous, il y a Ilana Mouriouzsef qui est là, assise à côté de moi. Bonsoir, Ilana.
Bonsoir.
Celle des livres, dans la rédaction de France Inter. Celle qui les lit, qui en parle, c'est vous. Et puis Jérôme Garcin, qu'on est ravi d'avoir avec nous. Bonsoir, Jérôme.
Bonsoir Fabienne.
On vous présente pas Jérôme, le masque et la plume, ça a été vous pendant très longtemps, même si désormais c'est Rebecca Manzoni. Vous avez toujours le bloc-notes dans le Nouvel Obs. Ce que j'entends, Jérôme Garcin, dans ce que nous dit Nathalie, ce que je trouve génial, c'est que elle se souvient de certains auteurs, mais elle se souvient surtout de Pivot parlant avec les auteurs.
Oui, quand on dit les auteurs, évidemment ce sont les écrivains, mais c'est aussi les philosophes, les penseurs, c'était Jean Kélévitch, c'était Lévi-Strauss, c'était Dumézil, Foucault, Michel Foucault. Ce qui était extraordinaire, moi je trouve qu'il a incarné ce que disait très bien votre auditrice, ce qui n'existe plus, c'est une télévision nationale populaire. Il parlait au nom de tout le monde, et d'abord pour celles et ceux qui n'ont pas forcément été éduqués dans la culture, et même je dirais que la littérature pouvait intimider. Ça, c'était unique en son genre. Et puis il faut aussi ajouter une chose qui était unique, c'était son intégrité. Voilà un animateur qui, il a fait quoi, 15 ans d'Apostrophe.
15 ans d'Apostrophe, bouillon de culture derrière. Ouais.
Après double jeu, sans jamais créer de société de production. Il n'a jamais fait fortune. Il a été l'homme du service public dans le plus beau sens du terme. Et je pense que cette intégrité, à l'époque il faisait Apostrophe, souvenez-vous, il ne fréquentait ni les écrivains, en dehors de son plateau bien sûr, ni les éditeurs. Il était vraiment unique. C'est une intégrité qu'on ne trouve pas plus jamais. Ne parlons pas des ménages, c'est-à-dire les occasions pour les animateurs de télé de toucher de l'argent en dehors de leur fonction.
On a eu Antoine Gallimard il y a quelques instants, Jérôme Garcin, dans le journal de 18h, et je lui posais la question, je lui disais, comment vous faisiez, est-ce que vous alliez, est-ce que vous poussiez pour que vos bouquins passent chez Pivot, parce que c'était vraiment la promesse d'une vente derrière. Et il m'a dit oui, on essayait, mais on n'y arrivait pas toujours, voire rarement.
Oui, et puis c'est vrai que c'était cette intégrité qui s'ajoutait à une vertu mais unique, qui est celle de passeur de lettres. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ce métier, c'est faire amener le plus grand nombre aux plus belles choses. Alors, lui, c'était les livres, mais ça a été aussi avec à l'époque de Bouillon de Culture pour le théâtre. Il adorait le théâtre, on le sait pas beaucoup. C'était un pilier de la comédie française. Il adorait le cinéma. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était encore une fois de faire aimer ces plus belles choses au plus grand nombre. Et ça, pour moi, c'est vraiment unique. C'était, j'ajoute ça, mais de manière plus personnelle, un homme d'une modestie incroyable. Là encore, c'est un cas unique dans l'audiovisuel qui ne se préférait.
J'espère qu'on n'a pas perdu Jérôme Garcin. J'en profite pour me tourner vers vous, Ilana Mor Youssef, parce qu'on va avoir Daniel Picoulou dans un petit instant. C'est un peu ce que disait Jérôme Garcin aussi. Il y avait ce mélange. Il y a eu des gros Marguerite Duras, il y a eu des Nabokov, il a cité des Foucault. Et
une
puis...
émission mémorable avec Marguerite Yourcenar qu'il était allé voir sur son île.
Exactement. Et en même temps aussi, des écrivains populaires, des écrivains, des Page Turner, des gens qui étaient des écrivains beaucoup plus accessibles que d'autres. Enfin, il y avait vraiment ce mélange-là.
Oui, absolument. Il avait à la fois une portée, une attention aiguë, évidemment, au grand succès populaire, en se demandant mais pourquoi ça marchait, qu'est-ce qui marchait là-dedans. Et lui-même, il trouvait du plaisir, ça se sentait. Et il avait le souci d'ouvrir les portes, en fait, des grandes œuvres au plus grand nombre. Et il le faisait... pourquoi il y arrivait? Parce que tout le monde a cette ambition. Mais lui, il y arrivait parce qu'en fait, il ne se plaçait jamais en surplomb. En fait, il était exactement à égalité avec le lecteur. Alors, en vrai, il n'était pas tout à fait à égalité. Il connaissait quand même pas mal de choses. Mais il avait, dans sa façon, par exemple, d'interroger les écrivains, il posait les questions en faisant semblant de pas connaître les réponses. Voilà.
Et peut-être aussi parce qu'il n'était pas du sérail. J'y mets des guillemets, on y reviendra dans un instant. Je voudrais saluer Daniel Picouli qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, vraiment. Et voyez, Daniel Picouli, quand je parlais à la fois d'auteur, de romans extrêmement exigeants à côté de romans populaires, et je suis convaincue que ça ne vous fait pas injure une demi-seconde, les romans populaire, c'était vous, et ça marche aussi avec un Bernard Pivot autant que les autres auteurs.
Oui, parce que Bernard Pivot, c'était Bernard Pivot déjà premièrement, et ensuite, moi, j'avais une relation. Vous savez, aujourd'hui, on était un jour où tout simplement, moi, à 11h13, j'ai envoyé le manuscrit de mon roman. Et je peux vous assurer qu'il y a des tas de romanciers, d'auteurs ou d'autrices qui, quand ils terminent, se disent. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être invité chez Pivot, bien sûr pour être invité chez Pivot, mais pour savoir ce qu'il en pensait, quel œil il portait sur moi, parce qu'il était d'une grande acuité, d'une grande générosité, d'une grande ouverture, mais on avait envie de savoir. Et moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une relation assez serrée avec lui, parce qu'il venait dans les salons, et le bonheur de l'alphabet, c'est que Picouli et Pivot, on était des fois assis l'un à côté de l'autre, et je vous assurais, alors là, je vous dis tout de suite, on ne parlait quasiment pas de littérature, il fallait pas essayer de lui placer un bouquin, voilà, non, on parlait
de foot.
Bien sûr, on parlait de foot, et il était un lecteur assidu de l'équipe, il était un supporter quasi fanatique des Verts, et je pense qu'il a apprécié dans ses derniers moments l'épopée des Verts, donc c'est de ça, c'est aussi ça qui me plaisait dans Bernard Pivot, c'est qu'on pouvait parler, et c'est pour ça qu'il avait cette espèce d'antenne populaire, de relation populaire avec les gens, parce que aussi lui, ses goûts était de cet ordre-là. Moi, je suspecte Bernard Pivot, si on lui avait donné le choix, d'être champion du monde de football, comme tout le monde, j'allais dire, à une époque. C'est-à-dire que quand on parlait des grands joueurs, il était émerveillé. Et là, lui-même... Alors moi, il y a une anecdote que j'aime, c'est sa façon d'avoir relié les livres et le football, pas seulement en nous invitant, mais d'avoir offert à l'équipe de France de 98 une véritable bibliothèque. Il a envoyé à l'équipe de France de football les livres des auteurs qu'il avait reçus à apostrophe. Donc pour essayer d'imaginer les vestiaires du Stade de France.
Tous sont en bibliothèque. Est-ce que c'était j'imagine bien ce que ça pouvait être d'être invité chez Pivot. Est-ce qu'on avait la trouille parce qu'on savait que bien se débrouiller face à Pivot, c'était quand même la promesse que le bouquin pouvait marcher pas mal derrière. L'inverse était terrible. Est-ce qu'on avait la trouille en allant chez Pivot ou pas?
Non, fallait pas. Non, on pouvait pas avoir la trouille. D'abord, on était flattés, on était heureux. Votre éditeur était charmé. les attachés de presse, tout le monde était très heureux. Et c'est vrai que c'était plutôt dans l'entourage. C'est toujours dans l'entourage des auteurs qu'il y a un peu de crainte. Mais vous y allez, vous connaissez l'homme, vous l'avez vécu dans des tas de circonstances, donc vous n'avez pas peur. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien. Et je pense que au contraire, beaucoup d'auteurs étaient confiants. Ce type avait un œil formidable. Ce type savait, et puis d'abord déjà les choses étaient faites quand vous étiez invité. C'est-à-dire que déjà vous étiez distingué parce que vous étiez invité à apostrophe et généralement avec une tablée de haut niveau et de haut vol. Donc vous étiez déjà quelqu'un de heureux. Et après avoir peur, ça fait partie, j'allais dire, de la télévision. J'ai eu le bonheur. Alors déjà avec Bernard Pivot, moi j'ai eu le bonheur d'être victime d'un mercato football, puisque quand il est arrivé au Journal du Dimanche, moi j'avais la chronique littéraire et c'est lui qui l'a prise de façon tout à fait naturelle et on en a parlé tous les deux et j'étais moi plutôt heureux pour le Journal du Dimanche que Bernard Pivot arrive. Donc c'est tout ça. Il était ça et il était aussi au théâtre. Moi j'ai eu le bonheur de l'interviewer à Aubagne en 2017 sur le plateau du théâtre d'Aubagne après qu'il ait fait son seul en scène sur les mots, parce que il est allé se coltiner cette espèce d'inquiétude et même tant d'émotion de se retrouver face au public
et cette frousse probablement terrible de se retrouver.
Premièrement il sentait l'amour que le public avait pour lui, l'attachement. Les gens qui étaient là étaient venus voir Bernard Pivot. Il était, j'allais dire, en terrain conquis et il le faisait très très bien. La seule chose qu'il me disait, c'est que moi je veux pas avoir à apprendre par cœur. J'y arrive pas. Et il se demandait même comment, moi, parce que j'ai fait des seuls en scène aussi, comment on pouvait apprendre par cœur. Mais cette interview que j'ai fait avec lui, là, c'est peut-être été le seul moment de trouille. Vous êtes en face du meilleur des meilleurs et vous devez l'interroger sur ce qu'il fait, sur son rapport au théâtre, son rapport au goût. Oui, là, soyons humbles, vous avez une petite trouille là quand même.
Daniel Picouli, formidable, merci beaucoup, vraiment, on sent que vous avez non seulement des souvenirs, mais que ce sont des choses que vous gardez dans votre cœur. Merci vraiment mille fois de votre passage, beaucoup, merci vraiment Pierre Assouline d'avoir passé ce petit moment avec nous. Jérôme Garcin, je voudrais revenir sur ce que nous dit Pierre Assouline et sur ce qu'était aussi Bernard Pivot. On dit toujours, c'est un peu la facilité de le dire lorsqu'une personne disparaît, que il ne peut plus y avoir d'autres, il ne peut plus y en avoir d'autres derrière, qu'il n'y a pas de relève, etc. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus cette place-là, selon vous, plus la même place à la télévision? Est-ce que c'est que notre goût pour les livres, au fond, n'est plus ce qu'il était, y compris à cette période Pivot? Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jérôme Garcin?
Non, parce que je suis pas trop pessimiste. Je pense qu'il y aura d'autres très bons, et il y a d'autres très bons animateurs et animatrices.
Il y a François Bunel et Augustin Trapenard sont sur l'antenne de France Inter demain matin, on les embrasse.
Absolument. Je ne suis pas. Mais disons que ce qui faisait la spécificité de Bernard Pivot, effectivement, est incomparable et à mon avis pas répétable. C'est-à-dire encore une fois,
quelqu'un qui appartient au service public, à notre service public, et qui ne se vend pas, qui ne se préfère pas, ça, je crois que c'est tout à fait unique. Je voudrais juste ajouter un mot à ce que vient de dire Pierre Assouline, qui est tout à fait juste. C'est que c'est lui qui disait qu'il n'était pas écrivain. C'est pas nous qui le disions. Et c'est la raison pour laquelle il avait refusé même d'entrer à l'Académie française. Ouais. Il disait j'ai choisi l'Académie Goncourt parce que c'est une famille et qu'on y mange bien. Je pense qu'il n'avait pas tort. Mais juste pour vous donner un souvenir très personnel et qui va dans le même sens, et d'il y a quelques semaines, hein, quand j'ai revu Bernard Pivot, il m'a dit, tu sais, mais mon âge d'or, ça n'a pas été les années apostrophes, ça n'a même pas été ma jeunesse, ça a été entre mes 70 et mes 80 ans, parce que c'est l'âge auquel j'ai écrit mes livres. Donc on le disait, hein, sur le vin, sur l'amitié, sur les mots rares, les traités sur les expressions obsolètes ou les mots rares sont formidables. C'est l'âge où j'ai fait de la scène, parce qu'il a fait aussi de la scène, pour parler justement de ces mots rares. Où j'ai présidé, me disait-il, dans la bonne humeur, l'Académie Goncourt, où j'ai voyagé, et où il me disait, et où j'ai aimé, et passionnément aimé. Et ça, je trouve que cet homme-là, qui était à quelques semaines de sa fin, qui dit que son plus bel âge, ça a été finalement le dernier, quand il a eu une liberté qu'il n'avait peut-être pas autrefois. Je trouve que c'est une leçon de absolument magnifique. Je vous rappelle quand même une de ses plus belles expressions, c'est quand il disait qu'il travaillait à la télévision, mais aussi dans ses livres, à l'augmentation du goût de la vie. Non pas du coût, mais du goût de la vie. Ben ça, je pense que c'est une expression qu'on a envie de se répéter aujourd'hui.
Et qu'on a envie de garder du goût de la vie et du goût des autres. Bonsoir Pierre Coutel.
Bonsoir.
Vous êtes libraire, Pierre Coutel, libraire à la librairie Mola qui est à Bordeaux. Alors vous êtes trop jeune pour décrire ce fameux effet pivot sur les ventes. Il n'y avait pas de table apostrophe dans votre librairie, Pierre Coutel, mais il paraît que les vieux lecteurs vous en parlent encore d'apostrophe, c'est vrai ça?
Oui, tout à fait. C'était une sorte de Bernard Pivot, c'était une sorte de statue du commandeur, mais aimable, pas effrayante. Au contraire, qui a toujours su transmettre, comme l'ont dit vos intervenants, l'envie et le goût de la lecture. Et effectivement, on a régulièrement des lecteurs, souvent des gens, voilà, on va dire nés dans l'après-guerre, dans la génération du baby boom, pour qui apostrophe était quelque chose de fondamental et qui nous en parle encore et des souvenirs. Et puis par le site de l'INA qui permet aussi de retrouver ces images-là. Donc c'est encore une figure qui n'a jamais cessé d'être présente.
Dites donc, né dans la génération d'après-guerre, Pierre Coutel, moi aussi je m'en souviens de Bernard Pivot.
Ilana
Moriusef aussi, restez avec nous, pardon Ilana.
Oui Pierre, je voulais vous poser une question parce que d'accord, vous n'étiez pas encore libraire pendant les années pivot à la télévision. Cependant, elles ont quand même eu une grande influence sur vous.
Oui, alors effectivement, moi c'est un souvenir pour le coup d'enfance, effectivement, c'est un souvenir de moment familial. On regardait peu la télévision tous ensemble, mais effectivement, apostrophe faisait partie des choses qui étaient, on va dire, tolérées, au contraire même légitimées. C'était une émission importante où la famille se réunissait. Donc c'était l'idée que parler des livres, c'était important et ça pouvait être intéressant. Je pense que c'est ça, moi, qui m'a été transmis par apostrophe et l'émission de Bernard Pivot. C'était l'idée qu'effectivement, écouter des gens qui parlent de ce qu'ils ont écrit était une chose assez passionnante.
Et même d'ailleurs, les écouter parler, et même peut-être parfois sans acheter le livre d'ailleurs, mais c'est aussi le bonheur de les écouter parler, de parler de leur travail et de leur littérature. Est-ce que vous avez vu, vous le libraire, dans le choix des Goncourt, on en parlait avec Pierre Assouline tout à l'heure, est-ce que dans le choix des Goncourt, vous voyez, on pouvait voir une patte Bernard Pivot? Alors on sait bien que c'est collectif, hein, on est d'accord, mais est-ce que ça existe ça?
Oui, ça, je pense que effectivement Pierre Assouline en a très bien parlé. Il y avait les années où il a été d'abord membre, puis président du jury. Et là, je pense qu'on rejoint ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire le souvenir et l'attachement profond que les lecteurs avaient à Bernard Pivot. Il y avait une confiance parce que c'était Pivot qui présidait. Et il y avait l'idée que les livres choisis par l'Académie Goncourt au moment où Pivot était président avaient quand même probablement, si ce n'est une valeur, au moins un intérêt ou un type de lecture auquel les gens étaient très attachés. Et ça, on le sentait véritablement. Je pense que les gens ne connaissent pas toujours qui est le président de l'Académie Goncourt, mais quand c'est Pivot qui l'a été, il y avait un véritable attachement des lecteurs à cela.
Est-ce que ça donne envie de j'allais dire, sortir les bouquins Pivot, en fait, à la librairie, là, ces prochains jours, peut-être des choses qu'on n'a pas lues depuis très longtemps, et dire, tiens, souvenez-vous, ça s'est passé à tel moment, et Pivot en avait parlé dans Apostrophe ou dans Bouillon de Culture, ça existe, ça, Pierre Coutel, quand on est libraire, d'imaginer ça?
Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire dès cet après-midi, où effectivement, comme l'a rappelé Jérôme Garcin, Bernard Pivot a lui-même écrit des livres, dont des livres de mémoire assez magnifiques. Et puis, effectivement, rappeler tout un tas d'auteurs que lui a mis en avant, y compris beaucoup aussi des auteurs de sciences humaines, dont Yankelevitch, dont plein d'autres. Mmh. Donc, tout à fait, c'est le genre de choses qui vont être mis en place à la librairie.
Eh ben, écoutez, tant mieux. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Pierre Coutel. Alors, il y a les moments Pivot d'Apostrophe. Avec la première auditrice Ilana, on se souvenait toutes les deux du moment Modiano. Est-ce que vous avez un moment pivot, vous ?
Oui, absolument, j'en ai un. Je me souviens de l'émission où il avait invité André Brink, écrivain sud-africain.
Saison blanche et sèche.
Voilà, absolument, une saison blanche et sèche, c'est difficile à dire. Et je crois que c'est pour ce livre-là qu'il avait été invité. Et en fait, on découvrait à travers cet écrivain tout un monde, du monde de l'apartheid sud-africain, de l'engagement pour les droits de l'homme, quel qu'il soit. Et c'était absolument... Ce qu'il y avait de fascinant dans les émissions de Pivot, et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il se passait toujours quelque chose. C'était pas du buzz, mais il se passait toujours quelque chose. Il faisait en sorte de provoquer dans la discussion quelque chose qui ferait réagir et qui nous marquerait.
On va écouter un tout petit extrait, justement, c'était le moment d'Uras, écoutez ce que ça donnait.
Alors, je sais bien, Marie Duras, que c'est vrai, vous avez obtenu d'autres succès, j'en ai énuméré d'ailleurs avant ce générique, mais quand même, celui-là, 100 000 exemplaires en 4 semaines, c'est absolument fabuleux. Est-ce que votre sensibilité, qui est très aiguë, très pointue, avait un peu pressenti ce succès ?
Non, non, non. Non, tout au contraire. Après le succès de La maladie de la mort, j'avais peur pour ce livre. Enfin, une peur relative, remarquez. Mais j'avais peur qu'il ne soit pas celui que les gens attendaient de moi.
C'est le même extrait où elle dit « Je ne sais pas ce que c'est qu'écrire, je ne sais pas ». Et cet extrait sera repassé en boucle après. Et vous en souvenez peut-être, Jérôme Garcin, parce que la séquence sera rediffusée, surtout parce que Duras va remporter le prix Goncourt à peine un mois après cette interview-là.
Oui, absolument. Moi, je suis un peu comme vous, Fabienne. J'ai un souvenir inoubliable de son entretien avec l'immense Nabokov,
ouais.
dont la théière était remplie de whisky, en fait, et qui avait préparé ses réponses.
Ouais. Mais encore un peu de thé, Monsieur Nabokov.
Voilà, un peu de thé, Monsieur Nabokov, et qui quand même, quand on se souvient de ce qu'il répondait aux questions de Bernard Pivot, qui est un très grand moment, évidemment, de télévision, mais aussi de littérature. C'était la littérature en direct, et avec tous les monstres sacrés, évidemment. Donc vous citiez Duras, mais on pourrait citer Ursenar aussi, qui avait fait des émissions incroyables. Puis je vous rappelle que c'était l'époque où même les présidents de la République croyaient devoir aller à Apostrophe pour montrer qu'ils avaient des lettres. Ça allait de Giscard à François Mitterrand.
Et les présidents de la culture passaient tous, mais j'ai des souvenirs de ça, à Bouillon de Culture, et on les titillait pour savoir si jusqu'à quel point ils étaient bons, en fait.
Oui, absolument, c'était un test. Il fallait passer chez Pivot pour pouvoir être élu ensuite.
Ben écoutez, merci vraiment beaucoup. On est heureux d'avoir pu rendre hommage à Bernard Pivot dans Le téléphone sonne ce soir. Jérôme Garcin, je vous remercie beaucoup. Merci à tous qui avaient participé à cette émission. Merci à vous, Ilana Mouriouceff, pour votre présence, et puis d'avoir aussi ouvert très largement votre carnet d'adresses.
Et oui, c'était une très très belle émission en hommage à Bernard Pivot sur France Inter. C'était mardi dernier. Vous retrouverez le lien sur notre site popourishow.com. Et maintenant, tel que promis, j'ai l'immense plaisir de recevoir un personnage un peu unique, exceptionnel, de notre francophonie nord-américaine, professeur et écrivain Thomas Spears. Et oui, il est allé même à l'île Maurice en Afrique, à l'île de la Réunion, les Antilles bien sûr, Haïti. Eh oui, c'est un amoureux de la langue française, des littératures créoles et africaines. francophone. Il vit à New York depuis 40 ans. Il est professeur de langue française et de littérature francophone à la City University of New York. Il est l'auteur de nombreux articles critiques, notamment sur l'autobiographie et l'autofiction. Un militant, je dirais, pour le rayonnement des littératures des îles, de l'océan Indien, des Antilles et aussi des auteurs québécois. Il est également traducteur et directeur de plusieurs ouvrages collectifs, lauréat du prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française. Il est membre de l'Ordre des francophones d'Amérique. Il a publié de courtes fictions et prépare une sida-fiction sur 9 vies écourtées. Les Mascarades de Wisconsin est son premier roman aux éditions Hamac, qu'on a présenté d'ailleurs il y a quelques mois sur cette antenne. Professeur Thomas Spears, collaborateur de notre émission. Bonjour cher professeur, c'est tout un plaisir de vous recevoir ce matin. Si je comprends bien, vous avez eu cette chance de participer à une des émissions de Bernard Pivot. Auriez-vous une petite anecdote à nous raconter?
Bonjour Eric et aux auditeurs, auditrices du Potpourri Show. Merci de me donner l'occasion de parler de regretter Bernard Pivot qui nous a quittés la semaine dernière lundi à l'âge de 89 ans, là, le lendemain de son anniversaire. On espère qu'il a bien vécu son anniversaire avec une bonne chair. Vous savez, il était de Lyon, il appréciait bien la bonne cuisine. Il avait fait des livres sur le vin et même pour lui qui était gastronome des mots d'une certaine manière, il avait fait des livres, les 100 mots à sauver, les 100 expressions à sauver. C'était un culinaire de littérature d'une certaine manière. Je crois que il faudrait dire que sa réputation l'avait précédé, évidemment, avant que je le connaisse. Et c'est un peu difficile aujourd'hui en 2024 à imaginer ce que c'était à l'époque. Son émission Apostrophe, qui a duré 15 ans à partir de 1975, l'époque où commençaient quand même les vidéocassettes et les chaînes câblées, ce qui faisait que son émission très populaire en France était diffusée énormément dans le monde francophone et tout le monde voulait savoir, est-ce que vous avez vu l'émission avec une telle personne, Bukowski, comme était ivrogne. On avait chacun ses préférés des auteurs. Pour moi, par exemple, Serge Dubrovski à la sortie de son livre Le Livre Brisé, ou Marguerite Duras avec L'Amant, ou Pierre Guillotat, ou des auteurs, Marguerite Yourcenar, Vladimir Nabokov, qui parlait dans la langue gauloise aussi. C'était donc un homme qui faisait vendre beaucoup de livres. Tout le monde suivait cette émission. Après Apostrophe, il y avait Bouillon de Culture pendant une dizaine d'années. Et à l'époque où je l'ai connu, il avait une émission qui s'appelait Double Jeu, où il présentait des auteurs de double ou de pluriculture, dont une culture française ou francophone. Et à l'époque, je venais de publier un recueil de textes, La culture française vue d'ici et d'ailleurs. J'avais donc demandé à mon éditeur des éditions Cartola à Paris de envoyer un exemplaire du recueil à Bernard Pivot, un service de presse, et Robert Agenot, le directeur des éditions Cartola, il m'avait dit, mais vous savez, Pivot, il reçoit des brouettes de livres par jour. Et c'est une anecdote pour vous donner l'idée de l'importance du Pivot, combien toutes les auteurs, les maisons d'édition voulaient que leur livre soit présenté sur son émission. Il m'avait donc invité à paraître parmi les invités de son émission Double Jeu. C'était il y a 20 ans exactement, en mai 2004. J'étais avec le sculpteur Reinhardt et la veuve du Shah d'Iran, Farah Pahlavi. Et c'est une émission qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de réactions de par le monde francophone. Je trouvais que c'était assez amusant de voir comment Pivot voyait chez moi un certain exotisme et même les monteurs qui ont mis des images des Premières Nations quand je parlais de Wisconsin, comme si on est loin du centre du monde. Et je n'arrivais pas à lui faire comprendre que pour moi, Paris n'était pas toujours le centre du monde, où que j'avais toujours voulu apprendre la langue française, où j'avais un amour inconditionnel de la langue française. C'était aux auteurs de choisir le lieu pour l'entretien. Moi, j'ai opté pour la librairie des éditions Présence africaine, qui est tout près de Saint-Germain-des-Prés. Mais pour vous faire savoir que Bernard Pivot ne connaissait pas cette librairie ou les éditions Présence africaine, il représentait surtout cette France de Saint-Germain-des-Prés, les grandes maisons d'édition qui faisaient connaître de partout le monde. Par la suite, en 2005, c'était le centenaire de la mort de l'écrivain Jules Verne. J'étais parmi les lauréats des trophées de la langue française qui ont, la cérémonie a eu lieu dans le cirque Jules Verne à Amiens, un grand festin animé par Bernard Pivot, et je crois que c'est ça encore, cet amour qu'il avait pour le patrimoine, pour célébrer Amiens, le passé de Jules Verne qui a eu ce passé dans tout le monde, et c'était une très très belle cérémonie où j'ai eu l'occasion encore d'être honoré grâce à Monsieur Pivot. C'était un homme d'une très grande curiosité, un enthousiasme qui était contagieux. À la télé, il s'étonnait des remarques de ses interlocuteurs. Et c'était apostrophe, comme le mot veut dire. Et c'était des interpellations presque brusques qu'il avait, une façon de provoquer. Et tout le monde aimait suivre ses émissions. On le voit avec ses lunettes, les lunettes d'une main, le livre d'un autre. Je pense qu'on se souvient de la générique, la musique générique de Apostrophe, le concerto de Rachmaninoff, comme on se souvient du générique de Radioscopie de Jacques Chancel. C'était des personnes qui nous ont marqués et on s'attendait à chaque semaine à l'émission de Pivot. Et c'était un grand passeur de littérature, une grande personnalité lui-même, mais qui savait laisser la place aux autres de s'exprimer. Et on ne peut que lui en est reconnaissant.
Merci, merci, cher professeur, d'avoir pris du temps pour participer à cette émission spéciale en hommage à Bernard Pivot. Et je rappelle à tous les auditeurs, où que vous soyez dans le monde, cette émission est disponible à télécharger sur notre site popourishow.com. Vous retrouverez aussi la liste de tous nos invités, biographie du professeur Thomas Spears, que j'espère retrouver en direct sur nos antennes dès ma présence dans les studios de Hawk House, Toronto. Merci à DJ Devera, toutes les équipes techniques, France Inter, TV5 Monde, France 24, Rodley Saint-Iné, journaliste haïtien en exil en France, nouveau collaborateur de Popourishow, bien au courage à vous et votre famille. Je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans du monde, ceux et celles qui sont avec vous. J'espère, vous n'êtes pas seuls. Bonne fête des mères. Bon dimanche et bonne semaine. Que la force soit avec vous. N'oubliez pas de nous donner un petit coup de pouce afin que cette émission dépasse le cap de printemps 2024. Allez, faites un don sur www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate. Et oui, faites un don à la seule émission langue française, Popourishow. Merci du fond du cœur. Dimanche prochain, tout ce que vous voulez savoir sur le Festival de Cannes, 77e édition. Eh oui. Et je vous laisse avec un petit medley d'Aya Nakamura. J'espère qu'on a toujours le temps. Et oui, dédicacé à Matt, nouvel auditeur qui aime bien Aya. Ciao, ciao, ciao.
Mal à l'aise, dérange ta vie, tout ça reste entre nous. Tu force, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas. Les amis font des bons comptes, les ennemis sont en compte. C'est sans se priver, mon cher, sans se miner. Petit à petit, tout monte. Tu comme mon monstre. Allié, la soirée, tout à fait. Bambara, je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès. Doucement, je suis pas pressé. Tu voulais la couronne, je l'ai volée. Les années, j'ai gagné. Aguera, aguera. Aguera, aguera. Aguera, aguera. J'ai comme un mouton carré. Aguera, aguera. J'ai comme un mouton carré. Toi là, ça tu veux. Pour moi c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'adores de moi. Hey, il veut que je chasse sa nana. Me faire des mini moi. J'ai senti ce qui t'attend moi. Moi aussi j'suis dans celle-là là. J'ai senti de loin sans mentir. Qu'on veut pas se fâcher. J'ai senti ce qui t'a senti. Il veut aller en veut chez tout partout. Affection et tout entre nous c'est trop d'art.
Je suis hyper.